Le jeu du taquin. À tous ceux qui voudraient voir une autobiographie dans ce roman, rien n'est vrai. Tout est vrai. Monique Lederach, La femme séparée. Il y a dans ma tête, comme des fissures d'aurore, une aube éternelle qui aussi tergiverse, bourgeonne, mais ne donnera jamais le jour. J'ai pris le train tôt ce matin. Je voulais aller écouter la bise, faire chanter les drisses et les étais des plaisanciers du port d'Ouchy. J'avais dans mes poches des quignons de pain sec pour les oiseaux du lac et quelques idées noires dans l'abîme de ma déraison. J'ai jeté tout le pain. Et me voilà maintenant traînant mes idées noires sous le regard sévère d'un cygne qui me guette. Il s'est posté en plein milieu du quai. Immobile, il me jauge en agitant parfois la tête de haut en bas, sans me quitter du regard. Je ne comprends pas s'il est malveillant ou joueur. Je reste là, sans plus oser bouger. Je voudrais pouvoir lui voler une plume pour écrire toutes mes maladresses sur l'écume du lac. Réunir les fragments de silence qu'il me reste à l'intérieur et me composer une nouvelle histoire. Je sors de mes poches celles que j'ai décomposées il y a quelques mois. Tous ces mots dans ma tête, des mots que je détestais tant ils me ressemblaient, qui bouillonnait, tout cet effroi, auquel venait s'ajouter un autre effroi, auquel venait s'ajouter l'automne peint en rouge sang toutes les feuilles de l'arbre et les décroche, une à une, lentement. Elle virevolte dans l'air humide, danse en silence, se frôle, caresse. Puis elle touche le sol, et c'est un fracas, un séisme. Il ne reste qu'un être dépouillé, qui cherche une lumière, tant ses ramures dénudées, mais le ciel a déjà disparu au-dessus d'une chape de plomb. Et la neige qui tombe des nues a une couleur cendre. C'est avec ses copeaux de charbon, mélangés à l'eau de mes larmes, de cette encre de sèche que j'ai composé mon épilogue. Dire pour pouvoir partir. Écrire pour se donner le courage d'en finir. On écrit, on délivre sa tête et son cœur et son âme et le courage s'effrite. Le courage, ce qui m'a toujours fait défaut. Il fuit par ma peau, paroi de futaille à l'intérieur de laquelle se forme, réaction chimique avec la moisissure de la mer, tout le vinaigre de mon être. Pourtant, il m'en a fallu du courage pour déposer larmes et coquilles, décrocher le téléphone, appeler le médecin, debout, pieds nus sur l'arête effilée de mes dernières forces. Dans l'océan ascétique, une petite fille résiste, encouragée par le regard patient du gardien de l'ombre. Tenir, résister aux anguilles d'angoisse qui se faufilent dans le varech de la nuit. Elle cherche le trésor dans l'épave engloutie. Elle cherche à me voler ma vie. Entre mes mains, les deux feuilles, où j'ai grafouillé la fin de ma faim, sont en miettes. Tout en déroulant le fil des souvenirs, j'en ai fait des confettis, que je remets dans mes poches. Je m'offrirai bien la liberté d'éparpiller ces scories, de laisser le vent faire son nettoyage. Mais le cygne me regarde d'un œil brillant, et je me retiens de commettre cette incivilité. La natidée ne veut pas céder sa place et me barre toujours le passage. Il n'y a aucun bateau sur l'eau, et la bise, agressive, ride la surface du miroir. Mon regard s'égare dans les plissures du lac. Quand j'ai refusé les médicaments qu'on voulait me prescrire, je savais que je décidais de prendre le chemin le plus long. Je savais aussi que lui, le tout frais et pimpant psychiatre, ne réussirait peut-être jamais à me pardonner ce rejet. Je comprenais son trouble, et quand il m'a demandé, d'une voix suppliante et ferme, de lui promettre alors de ne plus rien tenter contre ma vie tant que nous travaillerions ensemble, j'ai su à quel point l'on peut tout à la fois être loin et proche des êtres qui traversent nos vies. J'ai compris, j'ai promis. Il a accepté de détacher sa main de ses boîtes de clomipramine et autres pilules multicolores pour me l'attendre, paume ouverte, maladroitement, courageusement. Il a balbutié une esquisse de thérapie et dès le second rendez-vous, s'est lancé. Une vraie catastrophe. Je suis assise sur le canapé bleu comme la mer où l'on coule quand on ne sait pas nager. Un siège trop grand, trop mou, trop doux. Il est assis tout juste devant moi, les genoux à 10 centimètres des miens, si proche que son souffle se mélange au mien et je n'arrive plus à trouver mon air. Je voudrais me lever, je voudrais fuir, aller m'asseoir par terre, là-bas, au plus profond du coin. Je voudrais sentir la verticalité des murs tout contre moi, des bras larges et solides, glacés, rassurants, qui m'en serrerait et me retiendrait dans la réalité. Mais insensible à mon trouble, il me sifflote en préambule un « Allez-y !» sec et autoritaire, puis il ferme la porte de son regard, ouvre le gouffre de son isoloir et attend. Il est là, devant moi, strict et droit. Et le non-regard qu'il me lance traverse mon âme et s'en va frémir contre le mur derrière moi. Il me cherche, mais je ne suis plus là. Il n'y a maintenant plus qu'un abîme entre lui et moi et dans ma tête. Je m'accroche du regard aux branches du lilas qui balayent l'air dans le jardin de l'hôpital. Restez là, gardez conscience, ne pas couler, s'accrocher au dehors. De mes yeux ruisselle un acide qui brûle mes joues. Je lutte et lutte en vain pour garder en moi tous ces flots, et ma tête va bientôt éclater. Je cherche tout au fond de mon ventre une forme assez fine, assez ferme, un mot qui saurait se glisser entre les parois de ma gorge, collées l'une à l'autre par l'effroi de cette situation. Il y a une épaisse fumée noire qui s'avance et ronge les champs de fleurs. Il y a les bâtons qui frappent le sol, il y a le tonnerre qui fait vibrer le ciel, il y a une tornade qui éjecte dans l'air tous les toits des maisons. Il y a tout cela, et tellement plus encore. C'est la mort qui m'appelle. Je vais sauter par la fenêtre. Puis le lilas qui gesticule dans le parc penche tout à coup ses fleurs sous le soupir du vent. Le soleil, qui guigne entre les nuages, glisse un rayon ambré entre les minuscules corolles. Une voix, la petite perce-neige plantée dans le terreau de ma conscience par le gardien de l'ombre, agite ses pétales. Le bureau du médecin, il est comme ton moral, au rez-de-chaussée. Tout ce que tu réussiras à faire, c'est de casser les cils. La gorge s'ouvre. Des mots s'échappent, se tendent, supplient. S'il vous plaît. Le médecin a rempli à nouveau son regard et le temps a repris sa course. Il était là, devant moi, comme ce signe magnifique et fier, et l'étoile qui brillait dans ses yeux noirs n'était ni d'amour ni de haine. Elle était vie, fragile et puissante, sensible et secrète. « Il a des larmes dedans ses yeux », a chuchoté l'enfant assise sur mes genoux. Mais j'étais la seule à l'entendre, car le médecin, lui, ne pouvait la voir. Pas encore. Un petit garçon s'est approché du cygne depuis quelques minutes. Il lui jette des morceaux de pain qu'il arrache à son sandwich. Il rit en regardant le palmipède niaquer à toute vitesse les miettes qu'un congénère reluque depuis le bassin. Je m'éloigne et je vais me glisser sous un cèdre. Je n'arrive pas à sentir la rugosité de son écorce à travers mon gros manteau d'hiver. Mais je ressens son énergie et un sentiment de liberté et d'espoir grignote un peu le mal-être que je ressens depuis trop longtemps. Durant les semaines qui suivirent ce premier échec avec ce psychiatre, j'ai cherché à suivre du doigt, comme une aveugle, les saillies du poinçon qui avait gravé l'histoire sur ma peau, creusé dans chacune de mes cellules le lit de mes laideurs. Et comment faire alors, lorsque l'on découvre, pétrifié, que le bourreau de notre vie n'est autre que soi-même? J'ai pris mon courage à deux mains et je suis retournée dans le laboratoire du psychiatre pour tenter avec lui de poursuivre l'expérience de la délivrance de mon âme. Il vient de m'écouter conter mon calvaire de la dernière séance et renonce à ériger devant ses yeux le grillage du confessionnal. Il est un peu tendu, mais il sourit. Je serre fort contre moi la petite fille assise sur mes genoux et je me jette à l'eau. Je parle, crache la masse de cendre incandescente qui m'envahit à en devenir elle tout entière. Je raconte de mots tisons la genèse de l'immonde. Je me livre pour me délivrer. Et tandis que mes mots s'éparpillent à ses pieds, et tandis que mon âme se dévêt de sa haine, l'abîme se déshabille de sa couverture de flotte. Et mon navire se retrouve en cale sèche. Néanmoins, l'amertume, enfin, hors de moi. Devant moi, l'homme que mes flots ont submergé fond. Je vois son visage se décomposer, ses yeux se noyer, ses épaules avaler sa tête. Tout son être écrasé par le poids de toutes ces pensées impensables que j'expulse comme un volcan. Il faut survivre à cela, à la lave brûlante, au poison des effluves, à la poussière dense et nocive. Il a survécu, mais s'il eut un jour quelque empathie pour moi, elle est dorénavant calcinée, à jamais. Et moi, suis-je encore vivante? Je n'ai plus d'âme à moi. Je suis fumerole que les vents forment et déforment à son gré. Mais à l'instant de me quitter, serrant dans la sienne ma main, il pose ses deux yeux noirs au creux des miens. Il me chuchote avec une infinie tendresse. Prenez soin de vous. Et je comprends alors qu'il vient de faire connaissance avec la petite fille assise sur mes genoux. Deux gamins passent en galopant juste devant mes pieds. Un troisième petit gars les course en hurlant des insultes. Je passe la main sur mon visage pour essuyer les larmes que je sens rouler sur mes joues. Mais je me rends compte avec stupéfaction que mes yeux sont parfaitement secs. Ce n'est que le souvenir de ces jours de sinistre, tatoué sur ma peau, qui m'inspire ce réflexe. Il y avait trop de tout en moi et au dehors. Il faut ployer, me disait le roseau. Mais le bois de mon armure, asséché par un loup violent, avait perdu le peu de souplesse que le gardien de l'ombre avait mis tant d'années à m'enseigner. Sourd alors en moi cette impression de retour en arrière, de constant combat contre rien et pour rien qui me laisse le goût âcre de l'échec au cœur. Parce que je ne savais plus écouter, plus respecter, plus accepter, plus tolérer, j'ai gâché tant de choses. Tout est à recommencer. Je ne veux plus penser à cela. Le vent gelé fouette mon visage, et malgré la capuche et le col que j'ai remonté sur mes joues, je ne sens bientôt plus mon visage. Je me relève. Le froid, la mauvaise posture, l'âge, un mélange de tout cela fait grincer ma carcasse. Il y a un petit restaurant un peu plus loin. Je cours jusqu'au seuil. Une clochette tinte tristement lorsque je pousse la porte. Je m'installe dans un coin, et après avoir commandé un café, je sors le livre que j'ai trimballé avec moi, histoire de me passer le temps durant le trajet en train. La déchirure d'Henri Beauchaud. Le titre me parle, ou plutôt me crie dessus, il est d'occasion. Ce n'est jamais que notre histoire que nous compulsons entre les lignes écrites par d'autres. Les mots goûtent sur le sol de notre caverne et l'écho résonne et déraisonne jusqu'aux confins de notre inconscient, que l'on s'en rende compte ou non. Le coton des mots a beau être doux, ce n'est jamais qu'avec nos mains que nous refilons l'histoire à l'intérieur de nous. Un mot à l'endroit, un mot à l'envers, nous nous tricotons des chandails pour l'hiver ou des procès pour nos abjections. On s'en mêle les pieds dans le fil de l'histoire, on trébuche sur les mots, on se crée des liens, on s'y enroule, on s'y étouffe, selon notre humeur. La déchirure, ça craque déjà sous ma surface. L'oubli, l'espoir, le renouveau, voilé de brume, l'aurore, mystère. Promesse. Et l'espoir, toujours l'espoir. Celui du vent, le vent dans les cheveux des enfants qui rient du temps, le vent dans les voilures aux fenêtres ouvertes, le vent sur un désert qui façonne un visage, un rivage, pour que demain, je... J'ouvre le livre. Je suis une indocile. Espiègle et curieuse. Je m'engouffre avec résolution dans la forêt qui se dresse devant moi, regardant la tranchée avec défiance. Le bois regorge de dangers et je sens, derrière chaque bosquet, une menace, un défi. Une bête est tapie dans l'ombre et m'attend. Je la sens frémir et mon cœur crache dans mes veines un sang épais, chargé d'énergie. La peur s'est muée en audace. J'avance. Je lis. Assise à mes côtés, une petite fille joue au jeu du taquin.